Bonsoir. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'avoir dit oui ce soir. Alors, ce soir, on s'adresse vraiment aux amateurs de bonne bouffe spirituelle, des gourmands, des bonnes petites grâces du Seigneur. Et pour cela, on va vous donner ce soir une recette facile pour méditer l'Évangile. Et donc, le plat que je vais préparer pour vous ce soir, c'est la contemplation. Contemplation pour les nuls, ça s'appelle. Alors, je vous donne déjà la liste d'ingrédients, comme ça vous pouvez les faire chez vous. Donc, la première chose que vous avez besoin, c'est un bon morceau de l'Évangile. Donc, il y a certains qui essaient de faire ces plats, la contemplation, en utilisant l'Ancien Testament. Ou d'autres avec la lettre de Saint Paul. Je suis désolé, c'est très bien comme texte, mais il ne se prête pas facilement à ce type de recette. Donc, il faut vraiment prendre l'Évangile. Et quand tu prends un morceau de l'Évangile, il faut être aussi conscient du fait que ce n'est pas toutes les parties de l'Évangile qui se prêtent non plus. Donc, il y a certains qui sont pas, ou sont un peu moins convenables pour la contemplation. Donc, moi, je suggère une bonne parabole, c'est pas mal. Mais le mieux, le meilleur de l'Évangile pour la contemplation, c'est un épisode de l'Évangile où il y a de l'action. Il y a des dialogues, il y a des interactions, etc. Par exemple, un bon guérison. Donc, pour ce soir, j'ai choisi le morceau « La guérison de Bartimée ». On va faire un petit exercice de contemplation ensemble pour illustrer la recette. Alors, cet morceau de l'Évangile, même pour les cuisiniers novices, c'est un plat inratable. Tu auras besoin aussi de 3 mesures de l'imagination. Alors, si tu dis « moi, je n'ai pas beaucoup d'imagination », c'est vrai que ça va être une recette difficile. Mais, avant de dire que tu n'as pas d'imagination, fouille bien dans tes placards et j'en suis sûr que tu en trouverais assez au moins pour essayer ces plats. Troisième ingrédient très important, c'est du temps. Alors, pour le meilleur résultat, il y a une règle d'or. Plus de temps que tu mets, mieux c'est. Mais, on n'a pas besoin de faire tout d'un seul coup. Alors, le meilleur, c'est d'utiliser une heure de temps. Mais si tu n'as pas une heure devant toi, c'est difficile pour certaines personnes, tu peux en faire en 3 tranches de 20 minutes. Ou même 4 de 15 minutes. Je suis désolé, 30 fois 2 minutes, ça ne marcherait jamais. Limite 6 fois 10 minutes. Mais encore, ce n'est pas le meilleur. Le plus de temps que tu donnes un bloc, mieux le résultat de ta contemplation. Quoi que tu choisis, il faut aussi un minuteur. Très important. J'expliquerai après pourquoi. Quatrième ingrédient pour la bonne contemplation, c'est le lieu et l'heure de la journée adaptée. Le lieu. Il faut choisir un lieu où tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de distractions. Par exemple, dans le métro ou dans le bus, ça ne marchera pas. En attendant dans le queue à Monoprix, non plus. Un bon coin de prière à la maison, c'est top. Ou, encore mieux si tu peux, dans l'église. Et quant à l'heure de la journée, vraiment, le meilleur résultat a lieu le matin. Le prémisse de la journée, parce que c'est là le moment où notre tête n'est pas encore encombrée par tout ce qu'on vient de vivre. Pause déjeuner, ça pourrait marcher. Fin journée, je suis désolé, mais souvent le cuisson, ça reste un peu cru. Alors, on a tous pour commencer. Donc, une fois que tu as choisi le lieu, installe-toi et mets le minuteur. Une heure, 20 minutes, 15 minutes, comme tu as choisi. Pourquoi ? Parce que comme ça, surtout si tu te fais au début de la journée, tu cours aucun risque d'être en retard après. Et tu n'as pas besoin de regarder est-ce que c'est l'heure, est-ce que c'est l'heure. Comme ça, ton esprit sera disposé à la contemplation. Quand tu mets le minuteur, tu sais que tu ne seras pas en retard, ça va sonner, et tu peux te livrer à la contemplation sans aucun souci. J'ai oublié, pardon, un truc. Il faut aussi un morceau de papier et un crayon, même un post-it, et aussi un carnet. Alors, le papier ou le post-it, c'est nécessaire parce que quand vous commencez le cuisant de votre contemplation, vous commencez à contempler, ne soyez pas surpris que, du coup, tu te souviens de quelque chose de très urgent que tu dois faire dans la journée. Il ne faut pas oublier, je ne sais pas, appeler un tel. Il ne faut pas, avant de partir, mon sac de sport, etc. Alors, c'est une erreur de novice, de débutant, qui ne pas utiliser pas un morceau de papier et essayer de garder un coin de la tête en pensant « il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie ». Et donc, ta tête n'est pas 100% disposée à la contemplation. Donc, si ça arrive, il ne faut pas que j'oublie mon sac de sport, tu prends ton crayon, sac de sport, voilà, tu laisses à côté. Comme ça, aucun risque, tu vas oublier. Et là, tu peux concentrer sur la contemplation. Et pourquoi un carnet ? Un carnet, c'est important pour que, à la fin de votre contemplation, prenez quelques instants de noter les lumières que tu as reçues, même si tu considères que ce n'est pas extraordinaire. Tu écrivais la petite note, la petite pépite, les choses que tu as compris ou que tu trouves intéressant ou que c'est marqué, notez-le. De temps en temps, tu peux revenir sur votre carnet. Vous êtes surpris que souvent, quand tu écris, c'est assez nul. Mais ce n'est pas grave. Non. Souvent, c'est le petit pépite qui dit « Mais ah, j'ai oublié ça. » Et comme ça, tu gardes la mémoire de toutes ces petites grâces que le Seigneur vous envoie. Donc, c'est important, cela. Alors, maintenant, vous êtes prêts, vous avez tous les ingrédients. Maintenant, c'est le moment de prendre ton bon morceau d'évangile et de commencer de le lire lentement. Ensuite, tu incorpores graduellement les trois mesures d'imagination. Pour cela, tu fermes les yeux et tu essaies d'imaginer la scène, le personnage, l'ambiance. Est-ce que c'est une ambiance festive ? Bruyante, intime, etc. Donc, je n'ai pas la version papier, je suis désolé. Mais c'est une autre astuce. N'utilisez pas la version électronique, je suis désolé, parce qu'il y a des pastilles qui vont apparaître sur votre écran pendant que vous contemplez, et ça va être une distraction. Donc, version papier, c'est beaucoup mieux. Je n'ai pas sous la main ce soir, donc j'utilise, mais ne suivez pas un mauvais exemple. Je prends de Bartimée. Donc, vous savez déjà où se trouve. Marc 10, 46. Voilà. Jésus, et maintenant, on va essayer de faire l'exercice. Imaginez la scène. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Tu peux essayer d'imaginer la scène, le mur de la ville, la grande porte, tous les passants, tous les commerçants, le bruit. le brouhaha de la foule qui commence à grandir. Qu'est-ce qui se passe? Bartimée est assis. Et on voit cette foule commence à sortir de portes de la ville. Les enfants qui courent autour. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est Bartimée qui se lève. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi tous ces bruits? Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens l'ont rabroué pour le faire taire. Mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et suivit Jésus sur le chemin. Donc maintenant, vous avez la scène. Dans la contemplation, l'idée, c'est que vous allez faire le tour de personnage. Essayez de voir la même scène à travers les yeux de chacun de ces personnes. Ou pas à travers les yeux de Bartimée parce qu'il est aveugle, mais à travers ses oreilles. Et de se poser la question, si c'était moi à sa place, que ferais-je? Et ensuite le contraster avec ce que ce personnage a fait. Je vous donne un exemple. Imagine que tu es Bartimée. Tu es aveugle. Tu es mendiant. Tu as déjà entendu parler de ce guérisseur Jésus de Nazareth. Et impossible d'aller le voir. Mais aujourd'hui, il vient à ma ville. C'est pas, il va passer pas loin. Jamais je vais laisser cette occasion se passer sans rencontrer le Christ. Donc, il ne dit pas, Bartimée, Jésus, s'il te plaît, un instant, pour favor. Et Jésus passe, bon, tant pis. Oh, c'est bien dommage, hein, j'aurais pu être guéri, moi. Il crie, Jésus! Je suis désolé pour les gens qui sont sur le podcast, si vous êtes dans le métro. Jésus! Il crie comme un fou, quoi. Et tous les gens, ils disent, mais tais-toi, tu nous déranges, quoi. Mais ils s'en fichent, mais totalement. Jamais il va laisser cette occasion se passer. Il crie le plus bel. Et là, enfin, Jésus entend sa voix. Ils disent, courage, il t'appelle. T'imagines la joie. Alors, si c'était toi, Bartimée, maintenant tu es appelé par Jésus, qu'est-ce que tu vas faire? Excuse-moi, il m'appelle, excuse-moi. S'il te plaît, laisse un peu de place. Pardon, je suis navré, vraiment que je vois Jésus. On lit l'évangile. Il bondit et courut. Est-ce que tu as jamais vu un aveugle courir dans une foule? C'est fou. Ça, c'est parti, mais. Tu imagines, il court, il se plaque contre les gens. Les gens, ils ne sont pas contents. Ils se relèvent. Ils courent partout. Peut-être ils tombent sur Jésus. Voilà. Ils ne savent pas qui c'est, où il est. Jusqu'ils le trouvent. Maintenant, on va contempler Jésus. On se met à la place de Jésus. Jésus sait qu'il y a un aveugle qui mendie. Il n'est pas aveugle, lui. Il voit. Mais Jésus ne va pas vers lui. Il passe devant. Après, il commence à entendre ce Bartimée crier. Mais si tu lis bien l'évangile, il n'est pas crié une fois, mais plusieurs fois, même après que les gens demandent de se taire. Ça veut dire que Jésus continue à marcher pas mal. Et lui continue à crier, 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 crier. Et finalement, Jésus s'arrête. Si c'était toi, qu'est-ce que tu feras en ce moment si tu es Jésus ? Un pauvre aveugle qui veut être une foule qui le sépare de toi et lui, qu'est-ce que tu fais à sa place? Bon, il faut aller vers lui, le pauvre. Mais Jésus, il ne fait pas ça. Il s'arrête, il dit, appelle-le. Vous, tous ces gens-là qui voulaient qu'il se taise, appelle-le. Et donc, Bartimée a besoin de trouver ce chemin à travers une foule, pas sympa pour un aveugle. Il attend. Est-ce que c'est parce que Jésus est méchant? Est-ce qu'il y a un visage, bon d'accord, qui vienne, franchement, j'ai plein de choses à faire. Jésus voit Bartimée, il est déjà vu en passant, celui-là a de la foi. Il est capable, lui. Quel exemple qu'il va donner de la foi. Ça va être tellement beau son témoignage. Donc je m'éloigne et je laisse cet espace pour que sa foi puisse le combler. Et dans la contemplation, l'idée, c'est de me poser d'autres questions. Deux fois, est-ce que je demandais à Jésus de son aide? Et j'ai l'impression qu'il ne se penche pas vers moi, qu'il ne répond pas à mes plaintes, à ma prière. Est-ce que la raison, parce que dans l'évangile, il y a d'autres personnes que Jésus à aider sans qu'il demande rien, les gens. La veuve de Naïm, il ressuscite son fils, il n'a jamais demandé à Jésus quoi que ce soit. Donc il ne traite pas les gens tous de la même manière. Ici, il ne répond pas tout de suite à ma réponse. Peut-être cet évangile me donne une réponse, une clé de lecture. Peut-être parce qu'il voit ma foi. Il considère que j'ai assez de foi pour persévérer. Et qu'il serait encore plus beau le témoignage que je donnerais. Ou il laisse un espace afin que ma foi puisse grandir. Mais est-ce que je cède à le premier obstacle? Ou est-ce que je suis comme Bartimée, rien ne m'arrête? Et Bartimée, si je remets à la place de Bartimée, est-ce que je peux identifier dans ma vie des endroits où j'écoute trop ceux qui disent la foule, les autres, que je me comporte trop en conformité à ceux qui me disent, à leurs attentes, de ne pas le déranger, de ne pas manifester ma foi? Oh, est-ce que j'ai des blessures, des besoins de guérison, mais je ne veux pas déranger le bon Dieu. Il y a plein d'autres choses à faire. Ou est-ce que j'ai en ma vie de lieu de cécité, où je n'arrive pas à voir un tel correctement. Et quand je dis, Seigneur, guéris-moi, est-ce que c'est un Seigneur, s'il te plaît, bon, tu n'as pas autre chose à faire, est-ce que tu me guéris, s'il te plaît? Ou c'est comme parti, mais guéris-moi! Seigneur! Et le dernier ingrédient pour une bonne contemplation, c'est l'écoute. L'avantage de cette recette de contemplation, c'est que tu ne parles pas beaucoup. Ce n'est pas une prière où je donne ma liste de choses, voilà, de mes listes de courses pour le Seigneur, ou ma liste de prières pour les gens pour qui. Il y a une place pour ça, mais ce n'est pas la contemplation. Mais si j'essaie la contemplation, en fait, tu vois, je ne parle presque pas. Je réfléchis. Je contemple. J'essaie d'imaginer le ciel. J'essaie de me mettre à la place de chacun des personnages. Qu'est-ce que je ferais à ma place, à sa place? Qu'est-ce que ça veut dire de ma vie? Et si je faisais plus comme cette personne? Est-ce que le Seigneur est là ou je l'attends? Ou est-ce que ce qu'il fait pour les autres, je comprends qu'il peut aussi faire pour moi? Ou sa façon de répondre à ma prière? Et c'est là où le Seigneur répond. Qui dit confiance. Ou qui lève et qui met le doigt sur un aspect de ma vie où j'ai besoin de travailler. Où il veut me guérir ou me donner des grâces. Et c'est lui qui s'insère dans ma contemplation, et maintenant mon cœur est paisible, je n'ai pas de distraction, le minuteur n'est pas encore sonné. Je peux avoir ce temps, ces places où le Christ me parle, qu'on m'encourage, qu'il réponde à ma prière. Et son visage commence à devenir plus visible, son vrai visage. Et ma façon de voir le Christ, de connaître le Christ, commence à changer. De devenir plus en conformité de comme il est vraiment. Et tu vois comme ça donne une nouvelle lumière sur ma vie, ce que je vis. Et dans cette écoute, j'essaie d'entendre cette petite voix, que c'est la même voix de ma conscience, où le Seigneur est capable de placer une parole. Afin que je puisse avoir plus de confiance en lui, mieux comprendre comment il agit dans ma vie. Pas toujours comme je vais imaginer ou anticiper. Et il y a un petit déclic. Je vois. Je comprends mieux. Ces petits moments de aha, c'est le fruit qu'on cherche. Ce sont les choses qui changent de notre vie intérieure. Ces petites aha, je vois. Ou je vois mieux en tout cas. Je comprends mieux. Ils sont toujours associés avec un sentiment de joie, de paix, de bonheur. Une pépite qui me nourrit, qui me console, qui m'encourage. Et du coup, ces textes et l'évangile, je ne vais jamais oublier. En tout cas, ils prennent de toute notre couleur. Alors, si tu mets un minuteur pour une heure, comme nous faisons, on l'a fait quand j'étais novice, c'est dur une heure. même si une heure de contemplation devant le Saint-Sacrement. Pourquoi, si tu fais le 24 heures pour Dieu, essaie de contemplation pendant cette heure. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que les premières 5 minutes, on est très fervent. Après, on commence à piquer un peu le nez et on se ressaisit, voilà, on relit, voilà. Et on a l'impression que rien ne se passe. Et, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais on n'a pas le sentiment de beaucoup avancer. Mais c'est à force de revenir, de re-revenir, et revenir encore, et un petit déclic. Et souvent, quand je priais, je n'avais pas le minuteur parce qu'on n'avait pas de téléphone à l'époque, donc j'avais juste ma montre et je regardais moins 10. Je dormais au moins 20 minutes, mais bon, allez. Après, je dis, mais à quoi bon? Il reste 10 minutes, après 50, tu n'as rien fait. Ces petites voix intérieures disent, persévère. Et le nombre de fois que à moins 2, ah, et le Seigneur bénit notre persévérance. Donc, pour contempler, si tu considères que tu as raté le premier plat, ce n'est pas grave. Refait. Et la recette, je vous garantis, marche. Mais il faut avoir tous les ingrédients. Mettez dans le bon ordre. Et vous allez tâtonner jusqu'à ce que vous trouvez la recette qui te correspond. Et en plus, je vous dis que c'est un plat que tu peux réchauffer. Et d'ailleurs, souvent, c'est encore mieux. Le deuxième ou le troisième fois de suite. C'est-à-dire, tu prends le premier jour et tu retournes le lendemain. Et le surlendemain. Et le sur-surlendemain. Jusqu'à ce que soit épuisé. Et c'est fou comment, en contemplant un texte, le lendemain, on voit des trucs qu'on n'a jamais vus la veille. Même si on a passé une heure là-dessus. Parce que la parole de Dieu est vivante. Et active. Il me parle. Donc, je vous souhaite tous une bonne dégustation et je serai content de voir vos commentaires sur notre blog. Voilà comment vous avez réussi votre recette de la contemplation. Et pour finir, je vous invite dans vos petits groupes, voilà, de 5 personnes, de partager un texte. Qui vous avez un texte d'évangile que vous êtes très cher. Et d'expliquer pourquoi. Et comme ça, on va profiter de ce que vous avez trouvé dans ces textes. Et comme ce sera pour le plus grand, le bon appétit de tous. Allez, bon échange.